Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, au Okapi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment lutter efficacement contre l'insalubrité dans les zones urbaines de la RDC? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service avec Alfred Ntumba, coordonnateur du projet Mbongwana, Jonathan Ngoma, coordonnateur de l'ONG L'Homme au Centre des Actions, et le professeur Jean-Pierre Ndjibou sera également de la partie l'expert. Sur les questions de l'environnement et risques naturels. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la digitalisation de l'administration publique en RDC. Que faire pour accélérer la digitalisation de services de l'État? On en parle dans la deuxième partie de cette émission de la vie au quotidien au Okapi Service. Vous voulez participer à cette émission? Composez les 099-706-9941. 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Jean-Claude Tiala assure la mise en onde. Tati Mapoukou est à la réalisation et à la coordination de cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellentes conditions d'écoute du magazine de la vie au quotidien. Bien, encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Okapi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui, fidèles auditeurs, pour vous servir. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'insalubrité. Comment lutter efficacement contre l'insalubrité dans les villes de la RDC? Vous savez, l'insalubrité bat son plein dans la plupart des centres urbains à travers le pays. La ville de Kinshasa vient en tête avec plus de 10 000 tonnes de déchets produits par jour au niveau des marchés et autres endroits. Les restes alimentaires, les plastiques, sachets, cartons, métaux, verres et autres déchets jonchent les rues et remplissent les rigoles et les rivières, surtout en saison des pluies. L'opération Kinbopeto, par exemple, à Kinshasa, n'a pas produit des résultats satisfaisants, selon certains observateurs. D'autres villes de la République, comme Lubumbashi, aussi connaît la même situation, l'insalubrité. Alors, une mauvaise gestion des immondices peut causer des inondations et des maladies, selon les experts. Alors, quelles sont les stratégies à appliquer pour rendre nos villes propres? Vous voulez participer à cette émission? Eh bien, le standard est déjà ouvert. Composez le 099-706-9941. 099-706-9941. Nous avons déjà nos invités en ligne. Professeur Jean-Pierre Ndjibou, vous êtes expert sur les questions de l'environnement et risques naturels. Bonjour.
69-65-55-156.
Allô, professeur Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour, c'est...
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Okapi Service.
D'accord.
Nous parlons aujourd'hui de l'insalubrité, la lutte contre l'insalubrité dans les zones urbaines du pays, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui qui fait que nos villes, la plupart de nos villes sont toujours sales. Kinshasa en l'occurrence.
Merci pour la question. Donc, je pense que ce n'est pas une question de vraiment d'inquiétude. Hein. En fait, on a tendance, j'ai dit bien inquiétude entre guillemets, on a tendance de constater que notre mode de vie est devenu comme une vertu. Là où il y a de saleté, on s'est complet de vivre avec. Donc la vraie raison, je dirais, c'est la gestion, la mauvaise gestion de déchets. Et deuxième raison, c'est l'ignorance, entre guillemets, de la population aux notions d'assainissement. Mais je ne dis pas que la population est ignorante, mais elle sait, parce que personne n'accepte de vivre dans un environnement, dans sa propre maison, dans un environnement sale, mais simplement la population a perdu le sens du bien commun. Et lorsqu'on perd le sens du bien commun, du bien public, on donne l'impression que tout ce qui est public appartient à quelqu'un d'autre, sous-entendu, qui est l'État, et qu'on identifie ainsi. Alors que l'État fait partie de cet ensemble de toute la population, de chacun de nous. Voilà ce que je peux donner comme des éléments clés et comme cause, en fait.
Bien, donc on retient la mauvaise gestion des déchets et l'ignorance de la population.
Tout à fait.
Bien, on va accueillir Jonathan Goma, qui est coordonnateur de l'ONG L'Homme au Centre des Actions. Bonjour Jonathan.
Oui, bonjour, bonjour, bonjour à tous.
Alors d'après vous Jonathan, pourquoi nos villes ne sont pas toujours propres? On voit la saleté partout, les déchets un peu partout, particulièrement dans la ville de Kinshasa qui produit plus de 10 000 tonnes de déchets par jour.
Ah, merci beaucoup pour la parole. Bon, premièrement, moi je dirais que la responsabilité est vraiment partagée. Et la population a vraiment une tâche très importante. Et puis les autorités de la ville, hein, les autorités de la ville, surtout le gouvernement provincial, a vraiment une tâche très lourde. Et donc la responsabilité est partagée. Et la population n'est pas vraiment active pour rendre les endroits que nous vivons un peu propres, et puis de deux, et le gouvernement provincial n'a pas vraiment une politique assez efficace pour lutter contre l'insalubrité au niveau de la ville de Kinshasa, et c'est ce qui vraiment affecte la ville. Et comme vous venez de le dire, au niveau de Kinshasa, il y a 2000 tonnes chaque jour de déchets. Et donc, il y a vraiment une tâche qui est partagée, la population et puis le gouvernement. C'est ça.
Bien, merci. Professeur Jean-Pierre Ndjibou, quels sont les types de déchets qu'on retrouve souvent ou qui sont produits régulièrement dans nos villes?
Bon, en fait, nous avons la grande quantité de déchets chez nous, dans les grandes villes, ce sont les déchets ménagers, hein. C'est généralement les biodégradables, et certainement tout ce qui est déchets ménagers, mais on a qui s'ajoute, hein, on ajoute le déchet plastique éventuellement, du carton, de tout ce qui est déchets papier aussi, le carton éventuellement. Donc, et dans les grandes villes, c'est beaucoup plus le déchet ménager. Mais maintenant, les villes qui sont accompagnées aussi avec des industries, éventuellement des industries minières qui sont tout autour, aux environs, mais là c'est autre chose, hein. Mais la grande quantité de déchets chez nous, ce sont des déchets ménagers et qui peuvent trouver réellement solution.
Voilà. Alors, professeur, il y a eu beaucoup de d'initiatives pour assainir nos villes, particulièrement la ville de Kinshasa. On a parlé des Kinbopeto. Avant cela, il y a eu beaucoup d'autres opérations, Salongo, etc. Mais pourquoi ça ne donne toujours pas des bons résultats à la fin?
Et parce qu'on politise l'environnement. Parce qu'on fait de l'environnement un jeu politique. Et au nom, ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est un service qui doit être rendu. Ce service n'a pas besoin que ça soit un ministre qui le fait. Ça n'a pas besoin que ça soit un gouverneur qui le fait. Ça n'a pas besoin que ça soit... Mais il y a de l'État dans chaque service. Vous avez, par exemple, dans le mairie, vous avez des services urbains d'environnement. C'est leur travail au quotidien. Ils sont payés par l'État pour faire ce travail. Alors, tout ce qu'au niveau du pouvoir central ou au niveau du gouvernorat provincial, tout ce qu'on peut faire, c'est de pouvoir accompagner financièrement si le service concerné n'ont pas de sous. Ou également de pouvoir essayer de mettre des liens de collaboration avec d'autres services ou d'autres acteurs qui sont dans le domaine de gestion ou des collectes des déchets, des gestions et des traitements des déchets. Mais malheureusement, on a tendance de pouvoir travailler seul. Vous avez une grande ville comme Kinshasa d'autant de millions de personnes et vous allez vous rendre compte que c'est l'hôtel de ville ou le gouvernorat provincial qui voudrait gérer seul le déchet. Et parfois, peut-être, collaboration avec des amis, évidemment, ou avec des sociétés d'amis. Mais on fait de l'environnement un aspect politique et ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Et je crois que les échecs sont à ce niveau-là. C'est pourquoi on le fait de manière ponctuelle. Hein? Je peux vous donner un autre exemple très simple. Si vous imaginez une journée de l'arbre, et chaque fois, on plante d'arbres. Cette journée-là, vous avez toutes les autorités politiques en train de planter. Est-ce que vous imaginez si nous comptons d'arbres depuis 10 ans? Alors, on serait pratiquement dans une grande forêt. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de suivi. Les arbres qui ont été déposés ne poussent plus ou sèchent complètement. Donc, ça signifie que quelque part, il faut qu'on évite de politiser tout acte, même les actes qui sont censés être des actes simples de la vie normale des habitants ou d'un service de l'État, et c'est ce qu'on doit faire. L'environnement, ça fait partie d'un civisme de savoir vivre, de savoir être. Alors, automatiquement, il faut que ça soit fait régulièrement comme tout autre service de l'État.
Alors, si je comprends bien, professeur, faut-il confier la gestion des déchets dans nos villes à des privés ou à des structures privées?
Exactement, on peut combiner parce que de grandes villes que nous avons ici, c'est impossible de gérer le déchet par une municipalité, la mairie ou par un gouverneur provincial seul. C'est pourquoi il faudrait arriver à privatiser et qu'il y ait de partenariats publics-privés. Et à ce moment-là, la gestion, ça doit tenir compte des aspects assez clairs, hein, parce que quand on gère les déchets, il y a des étapes, évidemment. Donc, il faut collecter ces déchets, il faut les recycler, il faut les stocker, il faut traiter les déchets qui sont dangereux. Il faut qu'on passe par cette étape d'économie circulaire. Alors, là, c'est pas collecter les déchets et aller les brûler, l'incinérer, mais c'est collecter les déchets et le traiter. Donc, il y a toute une chaîne pour faire le traitement des déchets qui permettrait à ce que ce qu'on a produit comme déchets devienne automatiquement une matière première. Hein? Parce que vous savez, dans des déchets, qu'est-ce qu'on peut faire? Si je prends des cas de certains déchets, des déchets ménagers, on peut extraire de matières premières comme des mâches fer, comme des résidus de l'incinération des ordures de ménagers, par exemple, qui sont réutilisés en technique routière pour la fabrication, pour la construction de routes. On peut recycler, on peut composter, on peut méthaniser certains déchets, hein, ou donc d'en brûler des produits d'électricité ou alimenter des réseaux de chaleur. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Est-ce que nos déchets, en dehors de ces déchets, peuvent nous produire autre chose dans la ville? C'est la question fondamentale.
C'est la question
Mais
fondamentale.
Mais ceci, c'est juste pour arriver à collecter et à les incinérer ou déposer quelque part. Là, il n'y a pas de gestion des déchets.
Bien, on peut confier la gestion aux structures privées ou à établir un partenariat public-privé.
Public-privé.
Monsieur Jonathan, dites-nous comment vous arrivez dans votre commune, par exemple, comment vous arrivez à vous organiser avec les jeunes pour assainir le milieu.
Ah, merci beaucoup. Bon, dans notre structure, nous, en principe, d'abord, on travaille chaque vendredi. On a ciblé les endroits qu'on travaille. C'est juste la sensibilisation d'abord auprès de la population, de leur faire comprendre vraiment la vraie motivation d'assainir les endroits que nous habitons. Et parce que si on est tenté de vivre avec des saletés, il y aura trop de maladies. On est tenté d'abord de sensibiliser la population, de s'engager afin de rendre les endroits que nous vivons très propres.
Oui, Jonathan, vous faites cette sensibilisation dans quelle commune? Vous êtes à Mongafula, c'est ça?
Oui, nous sommes à Mongafula, précisément vers Maman Mobutu.
Maman Mobutu, voilà. Et vous travaillez avec combien de jeunes du quartier pour assainir l'environnement?
Nous sommes au nombre de 75 personnes.
Oui.
Oui, il y a des femmes, il y a aussi des hommes.
Et chaque samedi, vous faites le salongo.
On fait ça le vendredi. Chaque vendredi, on fait le salongo, on fait le kirage, on balaye de route.
Voilà.
C'est un peu ça.
C'est ce que
on est en train de sensibiliser la population et de s'engager vraiment parce qu'il y a aussi des difficultés qui se passent. On peut travailler deux fois quand vous passez, il y a encore des saletés qui reviennent. Donc, et c'est ce qui nous fait un peu difficile, mais on est en train de faire de la sensibilisation. Mais on voit que ça va, il y a des gens qui sont en train de comprendre. Il y a aussi des gens qui sont en train maintenant là et ils sont en train aussi de travailler eux-mêmes.
Merci
et
Jonathan.
Même si nous on n'est pas là, on voit vraiment que ça évolue.
D'accord. Merci Jonathan Goma, coordonnateur de l'ONG L'Homme au Centre des Actions. Bonne journée et à la prochaine.
Merci beaucoup.
Bien, nous poursuivons cette émission. Nous parlons de la lutte contre l'insalubrité. Comment lutter efficacement contre l'insalubrité dans nos villes, dans nos milieux de vie? Nous avons en ligne Monsieur Alfred. Monsieur Alfred, bonjour.
Bonjour, Jody.
Bienvenue dans cette émission, Alfred Ntumba, coordonnateur du projet Mbongwana. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut pour lutter efficacement? Quelle stratégie mettre en place pour rendre nos villes propres?
Merci beaucoup de m'associer à ces débats très intéressants. Je voudrais d'entrée de jeu saluer mes co-débatteurs, notamment les professeurs, parce que en entrant, j'ai trouvé les professeurs qui parlaient, et aussi Jonathan Goma qui venait de parler. Je voudrais aussi profiter pour saluer tous les auditeurs. En effet, ce sujet est très intéressant dans la mesure où la ville de Kinshasa aujourd'hui est très sale, et cela n'est pas seulement un problème de la ville de Kinshasa, mais c'est un peu la RDC est sale dans son ensemble. Et du coup, il faut trouver des solutions pour que nous puissions changer cette façon, changer cette donne. J'ai aimé la partie où le professeur a insisté sur le fait de dépolitiser les questions techniques, les questions environnementales. Ça, c'est la première des choses. Il faut arriver à dépolitiser la question de l'environnement, la gestion des déchets dans nos milieux. Il faut arriver à dépolitiser cela. Dès lors que nous ne faisons pas ça, nous allons toujours tourner en rond avec toutes les petites initiatives qui peuvent sortir de gauche à droite. Ça va toujours tourner en rond. Pourquoi? Parce que la question n'est pas prise dans son ensemble. La question n'est pas abordée de manière holistique. Et c'est ce que nous avons vécu pendant toutes ces années. Donc, des décennies et des décennies, nous avons toujours constaté que la question de l'environnement, la question surtout de l'assainissement de la ville de Kinshasa n'est pas prise de manière holistique. Donc, la première proposition, il faut d'abord considérer cette question de manière politique et ensuite voir quelle stratégie mettre en place pour que chaque personne se sente impliquée dans la gestion des déchets et cela peut aider justement la ville à redevenir propre.
Bien. Alors concrètement, sur le plan pratique, par exemple, dans votre projet Mbongwana, qu'est-ce que vous faites pour quelles sont les initiatives que vous prenez pour dans le cadre de la salubrité publique?
Vous savez, comme je venais de le dire, donc c'est une initiative privée, Mbongwana, qui est donc une initiative privée, qui n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Alors, ce que nous faisons, c'est quoi? Nous avons d'abord commencé par mener une petite étude pour comprendre les problèmes. C'est vrai que les problèmes connus de tous, que les problèmes d'abord de la gestion des déchets, c'est un problème de mentalité. Donc, les Congolais, les Kinois, de manière générale, ont perdu le bon sens. Ils voudraient assez que chaque personne puisse comprendre que j'ai un rôle à jouer dans ce que je fais. Lorsque je mange, je jette mes déchets dans la rue. Les déchets n'ont pas des pieds pour marcher et aller se jeter dans les poubelles. Donc, là où je les ai laissés, ils vont rester là. Il faut d'abord que cela puisse rentrer dans la tête des gens, dans la tête des Kinois, pour que les Kinois comprennent que dès lors que je jette mes déchets dans la rue et que c'est peut-être du plastique, lorsque la pluie va tomber, ça va ruisseler avec la pluie, ça va boucher les caniveaux, il y aura des inondations, il y aura des murs qui vont tomber et ça va tuer les gens. Et que moi, en tant que Kinois, lorsqu'il y a des morts d'hommes dans le quartier, je suis parmi les personnes qui ont tué ces personnes-là. Et ça, c'est ce que nous essayons de faire comprendre aux gens, que nous avons un rôle à jouer tous. Il ne faut pas rejeter cette responsabilité seulement aux autorités. Ils ne font rien, oui, c'est vrai, les autorités ne font pas assez. Mais nous aussi, nous devons faire quelque chose. Et c'est ce que nous avons pu dénoter de notre petite étude. Et nous avons pensé que si nous considérons qu'il y a des gens qui sont auteurs des déchets que nous retrouvons dans la cité, c'est que ces personnes peuvent être utilisées encore comme solution à ces problèmes. Et nous avons constaté que la ville de Kinshasa est composée à 70% des personnes. Et ça, c'est une manière générale en RDC où on vous dit que plus de 65% de la population active est composée de jeunes. Et c'est la même chose aussi à Kinshasa. Et ceux qui consomment beaucoup plus de plastique, donc des jus en plastique, des lots en plastique, ce sont des jeunes dans la majorité des cas. Et c'est comme ça, nous avons pensé que, à travers le projet Mbongwana, nous devons travailler avec les jeunes, les responsabiliser davantage, leur faire voir qu'ils ont un rôle à jouer et qu'ils sont la solution à ces problèmes. D'autant plus que les jeunes comprendront qu'ils sont une solution à ces problèmes, alors à ce moment-là, nous devons considérer qu'ils composent 110% de notre population chinoise. Si tous les jeunes ou bien 50% de ces jeunes comprennent l'importance de pouvoir gérer l'environnement, gérer les déchets, nous pouvons facilement arriver à changer la donne. Et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Le projet Mbongwana a été lancé dans sa phase pilote l'année passée, au mois d'août, et nous sommes en train de passer à sa deuxième phase avec les jeunes. Et nous estimons que avec ces initiatives, si on arrivait à réussir quand même au niveau des quartiers pilotes que nous avons choisis, à convaincre les jeunes à adhérer à cette vision de changement. Je pense que si Dieu fait grâce et que nous avons des moyens nécessaires, on peut alors ramener cette initiative sur des communes et pourquoi pas aussi sur des villes. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire et nous sommes en train maintenant de préparer la deuxième phase de ce projet qui va durer pendant 3 ans. Et la deuxième phase voudrait assez que nous puissions former les jeunes dans le recyclage. Parce qu'on ne voudrait pas que le jeune travaille seulement à nettoyer, comme l'a dit par exemple notre collègue Jonathan Ngoma. On voudrait pas qu'il s'arrête seulement à nettoyer, à ramasser, mais qu'il arrive aussi à recycler.
Bien, on va accueillir les auditeurs Omar Kigalo de Kinshasa et Célestin de Kananga. Omar Kigalo, bonjour. Omar Kigalo, bonjour. Voilà, il n'est plus là, on va les retrouver tout à l'heure. Célestin de Kananga, bonjour.
Bonjour à Radio Capi.
Bien, dites-nous, la ville de Kananga aussi est confrontée à cette question d'insalubrité ou Kananga est propre?
Vraiment, monsieur le journaliste, vraiment c'est bizarre. Surtout toutes les communes, hein. Je peux dire que dans toutes les communes. Mm. Surtout dans les quartiers, je peux dire même dans les quartiers Kamaï, hein. Vraiment oui. C'est bizarre. Si vous parcourez vraiment toutes les routes qu'il y a dans la province de Kinshasa centrale, c'est vraiment bizarre. Quand même la pluie venait même de tomber, il y a l'insalubrité vraiment sans moyen. Mais je ne sais pas si les autorités pourront prendre quand même des mesures adéquates pour pallier à cette situation. Mais je vais d'abord poser la question à l'invité qui est au studio de la radio Kati. Quelle méthode qu'il a déjà entreprise pour donner quand même des conseils ou soit quelle chose qu'il a déjà faite pour qu'il puisse quand même instruire quand même les autorités de toutes les provinces. Je pense que nous nous voyons chez nous ici, peut-être il y a de la boue, toutefois il y a aussi des sachets, voire même des galons partout. Mmh. On se demande, nous sommes dans une province ou bien nous sommes dans la brousse. Avant les gens du village. Oui, papa.
Vous avez dit c'est beaucoup plus dans à Kamaï où il y a beaucoup plus de déchets. Est-ce qu'il y a des poubelles publiques ou pas?
Oui, c'est vraiment à Kamaï, surtout. Il n'y a pas même là où on peut poser même les pieds. Vraiment, c'est bizarre. On se demande est-ce que nous avons le faire de la ville ou quoi? Hein? C'est pour ça que nous interpellons la conscience des autorités provinciales pour qu'ils puissent quand même pallier à cette situation. Et l'invité qui est aussi doit aussi faire en sorte qu'ils puissent même descendre dans des provinces, soit même dans des communes. Ils ne peuvent jamais seulement se contenter de rester à Kinshasa. Ils puissent quand même descendre ici pour soit instruire les autorités provinciales pour pallier à cette situation. Voilà mon
merci Célestin. Merci Célestin. Quelle stratégie mettre en place pour rendre nos villes propres pour lutter contre l'insalubrité? Maître Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Omar Kigalo, vous êtes là, bonjour. Je pense qu'il y a quelques soucis avec sa ligne. Aujourd'hui, professeur Alfred Toumba, qu'est-ce que vous pouvez dire à Célestin qui nous a appelé de Kananga?
Merci beaucoup Célestin. Bon, je voudrais modifier un peu, je ne suis pas professeur, je suis journaliste. Oh. Alors, Célestin...
Pardon, j'ai confondu avec le professeur Jean-Pierre Djibou.
Je vous en prie.
D'accord, allez-y.
Alors, ce qui a dit Célestin de Kananga, c'est vrai. La situation de déchets, c'est comme je l'avais dit à l'entame, c'est une situation qui est généralisée dans la ville de Kinshasa. Je me souviens encore, au début de cette mandature du président de la République, donc le premier mandat, il y a eu même une conférence qui a été organisée par le ministère. Il y a eu le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Urbanisme et Habitat qui s'étaient lancé les défis de pouvoir travailler sur les questions de l'assainissement. Bon, malheureusement, on a constaté que jusqu'à la fin de ce mandat, rien n'a été fait. C'est pourquoi nous disons qu'il faille nécessairement dépolitiser cette question si nous voulons voir les choses changer. Parce que les politiques, ils font beaucoup plus leur folklore politique pour faire voir au chef de l'État que voilà, nous travaillons, nous réfléchissons. Mais en réalité, après toutes ces réflexions bidons, rien n'avance et nous l'avons constaté. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut impliquer les jeunes. Vous savez, comme je l'ai dit, les jeunes sont aujourd'hui un moteur du développement de ces pays. Si nous voulons que ces pays puissent changer sur tous les plans, il faut impliquer les jeunes. Sans les jeunes, rien ne va marcher. Et pour impliquer les jeunes, il faut nécessairement comprendre qu'est-ce que les jeunes veulent réellement. Aujourd'hui, avec le peu que nous faisons ici à Kinshasa, parce que je vais répondre à la préoccupation de l'auditeur sur est-ce qu'on peut descendre dans les provinces pour sensibiliser les autorités, mais je voudrais d'abord dire que par rapport à ce que nous faisons avec les jeunes ici à Kinshasa, nous les formons d'abord, nous les sensibilisons, nous travaillons avec eux à travers certains forums que nous organisons à leur encontre pour discuter, leur donner la parole. Vous savez, les jeunes ont des solutions. Vous devez mettre ça en tête que les jeunes ont des solutions à tous ces problèmes. Mais c'est parce qu'ils se sentent négligés qu'ils n'arrivent pas à apporter ces solutions-là. Imaginez tout simplement que vous êtes dans la commune de Limété et vous invitez tous les jeunes de Limété, vous leur dites, écoutez les jeunes, proposez une solution et comment nous pouvons appliquer ces solutions sur les terrains pour que la commune de Limété redevienne propre. Je vous assure que cela ne va pas demander des années pour que vous puissiez voir la commune de Limété redevenir propre. Parce que ces jeunes ont la volonté. Ils ont les idées, mais ils se sentent négligés et c'est comme ça qu'ils se disent, bon, ça ne regarde pas. Bassara Diop on a Bango. Donc nous voulons que les autorités qui nous suivent, qu'ils arrivent à comprendre que les jeunes sont là et ils ont des idées qu'ils
D'accord. mettent à contre. D'accord. On fait signe que Maître Omar est en ligne. Maître Omar, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody, et bonjour aux invités.
Bien. Pour assainir nos villes, quelles sont vos propositions?
Merci, Monsieur Jody. Mes propositions sont simples. Mais avant tout, il faut retenir, et c'est l'intention de tous, gouvernants et gouvernés, que l'environnement est à la fois un cadre de vie, une source de revenus et un réceptacle de déchets. Donc si l'environnement n'est pas sain, la vie n'est pas possible. Voilà pourquoi notre loi fondamentale, la Constitution, dans son article 43, dit « Tout Congolais a droit à un environnement sain ». Mes solutions sont simples, Monsieur Jules. La première, c'est le respect des textes juridiques qui existent. Nous avons plusieurs lois qui ont tout prévu, et au niveau de la population, et au niveau des autorités. J'ai commencé par la loi fondamentale. Nous avons adhéré à plusieurs textes internationaux. Je peux citer la convention de Maputo et plusieurs autres conventions. Nous avons en 2011 voté une loi au Parlement portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Ces lois ne sont pas respectées. Par exemple, il est demandé à ce que l'État prenne en charge toutes les communautés au niveau de Kinshasa. À qui c'était l'Union européenne à l'époque qui venait récupérer les déchets dans les endroits clés et les prendre. Depuis que l'Union européenne est partie, nous vivons dans un désordre, dans une insalubrité totale. L'État n'existe pas, alors que la loi lui oblige d'assainir les milieux. De deux, il y a un problème de sanctions des méfaits environnementaux. La loi institue la police environnementale. Cette loi veut que les agents de l'environnement passent dans chaque maison, au niveau de chaque quartier, pour vérifier si les déchets sont bien gérés. Et tout public, tout citoyen qui ne respecte pas doit être sanctionné. On a comme l'impression que le ministère de l'Environnement se préoccupe des conférences internationales, des longs discours, des bons français, mais sur le terrain, on ne fait rien. Il y a un autre problème. Des gens jettent les déchets à même le sol. Des gens jettent des déchets dans les caniveaux, au su, au vu, et du public, et de la police. Alors que la loi dit tout citoyen congolais peut se saisir d'un infracteur et l'amener à la police. Donc il y a un problème sérieux de non-respect des lois. Il faut commencer par la deuxième chose. Il y a un problème sérieux d'éducation environnementale, monsieur Jeudi. Comme l'a dit l'invité, nous sommes très mal éduqués sur le plan environnemental. Moi, le jour où j'ai su qu'un papier peut faire 20 ans sur le sol, le jour où j'ai su qu'un sachet peut vivre pendant 50 avec des implications dangereuses pour la vie, je le fais plus. Est-ce qu'au niveau de l'école, au niveau de... Voilà d'abord comment on se comporte même à l'église. Les gens s'essuient avec papier mouchoir, ils jettent même le sol. Ni les pasteurs, ni les diacres, les anciens interpellent. Déjà au niveau de l'église, qui est censé être un lieu saint, au niveau de nos familles, comment on entretient nos poubelles, comment on les fait? Est-ce qu'au niveau des écoles, on apprend aux enfants l'importance de l'environnement et sa majestion qui peut entraîner aujourd'hui? Donc, un problème d'éducation se pose. Il faut commencer par sensibiliser, comme les invités les font, mais aussi éduquer. Et enfin, je pense qu'il faut passer par la conscientisation des autorités. On a comme l'impression que les gens se limitent à dire « Kabila a fui, Félix a fait ça, Fayoulou a fait ça ». On perd le temps avec des débats sur les hommes. Les imbéciles discutent sur des hommes, les moyens parlent des événements, les élites discutent sur les idées qui peuvent avancer le pays. Ce sont les vrais débats qui doivent loger ou faire domicile au niveau de nos parlements. Que faire pour protéger notre environnement? Si nos autorités au niveau parlementaire, au niveau gouvernemental, soient conscientes, on n'aura pas tout ça. Qu'est-ce qui manque à l'État qu'on voyait de financer les budgets pour qu'on puisse assainir? Aujourd'hui, je vous donne un cas de Yolo par exemple, lorsqu'on se dit « je vais à Capella », ça sent très mauvais. Les gens qui prennent les poubelles au niveau des maisons viennent les jeter même le sol parce que l'Union européenne est partie, personne ne sait les faire. Ça fait 4 jours qu'il y a des déchets là-bas. Les ministres provinciaux passent, les députés passent, les premiers ministres passent et on ne fait rien.
Bien,
aussi longtemps que nos autorités ne sont pas conscientes,
d'accord,
on n'aura rien fait.
Merci Maître Omar. Gérard, vous êtes à Djougou. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la gestion de l'insalubrité? Gérard?
Bon. Oui, je vous écoute 5 sur 5.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, concernant l'insalubrité, moi je dirais ceci. Quand nos autorités se construisent des belles immeubles ailleurs et au pays, pendant que les caisses de l'État se vident, que voulez-vous en résultat? Le peuple et les gouvernants sont très mal éduqués. Une bonne éducation recommande que les déchets soient rassemblés, oui, bien gérés. Mais notre maladie est que les fonds rassemblés pour des faits particuliers sont souvent détournés, et ceci pour manque de redevabilité. Un exemple, ce que je peux donner, le fonds ne reperçoit les fonds de l'argent aux usagers de la route mais les routes restent dans un état très critique. La, le FFN perçoit de l'argent pour planter les forêts.
D'accord, Gérard, si je comprends bien, oui, vous déplorez le fait qu'il y a les fonds destinés à l'entretien de nos villes sont utilisés à d'autres fins. Voilà.
Effectivement, c'est ça.
Voilà, c'est alors, utilisé à autre chose au lieu de, d'assainir nos villes. Merci d'avoir appelé Achille. Vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Monsieur Jeudi, bonjour à l'invité.
Voilà, Lubumbashi était une ville propre. Aujourd'hui, on apprend que Lubumbashi a plongé aussi dans l'insalubrité.
Tout à fait, tout à fait. Lubumbashi est devenu vraiment insalubre. Bon, moi je pense que beaucoup ont dit que la faute, bon, elle est partagée bien sûr par l'État et la population, mais pour moi je pense que la plus grande part revient à la population, l'incivisme de la population. Je donne juste un exemple, j'ai essayé de reprocher un ami là au centre-ville, mais pourquoi tu jettes une bouteille en plastique alors que la poubelle est juste à côté ici? Qu'est-ce qu'il me dit? Mais la personne me dit non, est-ce que tous ces déchets ici, c'est moi qui ai jeté ça? C'est toi qui viens venir me donner une leçon aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est cette mentalité-là. Donc, même pour des petites choses, il faut pas toujours dire que c'est l'État, c'est l'État. Mais pour faire peut-être, j'étais juste un sachet dans une poubelle. Bon, je pense que ça demande pas vraiment beaucoup de manœuvres.
C'est pas l'État qui viendra jeter à votre place.
Pardon?
Je disais que c'est pas l'État qui viendra jeter la bouteille
c'est pas ou le sachet c'est à pas votre l'État. Place. Tout à fait, tout à fait. C'est pas l'État qui viendra jeter juste pour des petites choses. Là, il faut toujours dire l'État. Parce que nous savons que l'État a beaucoup de choses à faire quand même. S'il faut dire que non, l'État viendra faire, alors que nous-mêmes ne sommes pas vraiment éduqués dans cette matière-là, donc ça va être compliqué. Voyez-vous aujourd'hui à Lubumbashi, la plupart des déchets, ce sont les vendeurs ambulants. On a déployé des policiers pour lutter contre ces phénomènes-là. Les policiers font leur travail, mais les soirs tard dans la nuit, les mêmes personnes reviennent. Et vous voulez que l'État fasse quoi? Donc, la mentalité d'abord de nous, la population. Donc, nous devons changer. Nous devons changer parce que c'est pas tout que l'État viendra faire. Bon, peut-être une part, ici à Lubumbashi, c'est que un petit constat que j'ai fait. Nous constatons quand on annonce l'arrivée d'une autorité, peut-être un président de la République, une autorité quelconque, et vous allez voir, on commence maintenant à assainir le
poids. À assainir la ville.
Ouais. Je me demande pourquoi attendre tout ce temps-là pour peut-être commencer à le faire juste à la veille de l'arrivée d'une autorité. La faute est partagée, mais la population a une grande part.
D'accord, merci beaucoup. Professeur Jean-Pierre Ndjibou, vous êtes expert sur les questions de l'environnement. Vous avez suivi beaucoup en déplorer le fait que on dit que l'insalubrité, c'est d'abord une affaire, la mentalité. Il faut arriver à changer les habitudes, la mentalité de la population. Votre réaction?
Tout à fait, je suis d'accord de tout ce qui a été avancé comme argument. Hein, donc, je l'ai dit bien avant, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est assainir la mentalité de l'homme congolais. On ne peut pas assainir l'environnement si notre propre mentalité n'est pas assainie. Il faut dépolluer notre cerveau. Et je pense que l'intervenant qui est l'avocat ou maître, je ne sais pas comment il s'appelle.
Omar Figalo, oui.
Un mot exactement, il a dit qu'il y a un problème aussi de loi. L'environnement, c'est aussi lié aux textes légaux. Et ces textes-là doivent être appliqués. Mais rien ne peut être possible. Rien ne peut être possible d'assainir une ville tant que nous avions notre mentalité non assainie. Et je reviens à ce que je dis. Lorsqu'on veut gérer, on veut gérer le déchet, ça signifie qu'on doit d'abord collecter, faire le regroupement des collectes des déchets. Et on doit passer par le négoce, on doit passer par le courtage, on doit passer par le transport, on doit passer par le traitement de déchets, on doit passer par la réutilisation ou l'élimination de déchets dangereux, par exemple. Et tout cela signifie qu'il y a une chaîne. Et pour faire cette chaîne, c'est toute une entreprise. Ça veut dire qu'il faut construire des entreprises pour ça. Alors maintenant, si vous prenez la vie de Kinshasa, vous prenez la vie de Bukavu, vous prenez la vie de Lubumbashi ou la vie de Kisangani, toutes les autres villes de la RDC, allez-vous vous rendre compte que même des sites de décharge ne sont pas des sites choisis en tenant compte de respect de l'environnement. Je prends un cas très simple de la vie de Lubumbashi. Vous avez des sites de décharge sous les lignes des hautes tensions, à côté d'un chemin de fer qui relie, qui quitte Lubumbashi vers le Kasai, vers le nord du Katanga. Le Kasai, il est beau. Et dernièrement, c'était même amusant, où un train, une locomotive s'est arrêtée parce qu'il y avait un engin de la commune et qui était allé mettre le déchet, renverser les déchets sur les sites. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que dans nos villages, tout le monde faisait, les traditions, donc les savoirs de nos grands, de nos grands-mères, de balayer, d'éloigner les déchets de notre maison. Mais on n'a rien fait de la gestion de ces déchets. Parce que le déchet, c'est une matière première. Le déchet, c'est de l'argent. Et c'est ainsi que nous insistons, j'ai entendu des collègues insister aussi là-dessus, cet aspect de dépolitisation. Lorsqu'on se dit, on dit, voilà, dans l'environnement, il y a autant de millions, et ce sont des gens qui courent, qui s'entroupent, qui réfléchissent un peu comment on va voir ces millions-là. Mais en réalité, pourquoi faire? Donc, il y a tout un travail énorme à faire, comme a dit monsieur le maître. Aussi, c'est aussi sur l'éducation. Imaginez qu'une ville, qu'est-ce que c'est un Congolais, en fait? Si vous posez cette question à un enfant congolais, dites-lui qu'est-ce que c'est être un Congolais. Je ne sais pas si vous aurez une réponse. Mais un enfant américain vous dira, être américain, c'est être le meilleur, c'est être le premier, c'est être grand. Donc il est éduqué depuis la base de savoir ce qu'être un américain, un savant. Donc éduqué à la grandeur. Mais qu'est-ce que c'est un Congolais, si vous pouvez, l'identité, qu'est-ce qu'on peut dire des Congolais? Un enfant congolais va vous dire, il peut ressembler à tel type d'homme politique, il peut vous dire, il peut ressembler à tel musicien. Donc, il y a un vrai problème d'éducation, éventuellement, et un problème d'identité. Il faudrait que les gens reconnaissent.
Oui. Professeur, oui. Maître Omar a dit tout à l'heure qu'il est important d'avoir une police environnementale qui peut contrôler chaque jour pour voir au niveau des parcs.
Qui existe.
Qui existe déjà, mais peut-être qu'il n'a pas assez de moyens.
Qui existe, mais qui ne fait pas son travail pour lequel elle a été engagée. Mais généralement, ils vont aller déranger les gens qui ont des kiosques, des petits magasins, et voilà, ainsi de suite. Oh, taxe d'environnement, vous n'avez pas encore payé. Taxe de ceci, vous n'avez pas. Donc, il y a des vrais problèmes. Le vrai problème aussi, c'est, nous sommes dans une grande confusion. S'ils sont bien payés, malheureusement chez nous, même les gens qui sont bien payés sont dans la corruption. Mais c'est un peu ça, ce que je dis, qu'il y a un vrai problème d'éducation. Alors, cette éducation va permettre à ce que les gens sachent et un bien public, dans un bien public me concerne. Je ne voudrais pas passer sur une route sale. Je ne voudrais pas passer sur une route où il y a des nids de poules. Alors, je vais payer le taxe, je veux que cette route soit éclairée, je veux, ainsi de suite. Donc, on n'a pas besoin de retrouver une autorité qui passe et qui va circuler la ville avec des journalistes qui accompagnent, comme actuellement on a toutes sortes de journalistes qui font n'importe quoi et qui vont publier, voilà. Alors on fait plaisir à un homme alors qu'on doit travailler dans les domaines d'environnement pour ses administrés. Ça signifie aussi que celui qui est là comme qui doit gouverner ne comprend pas pourquoi et quelle est sa place par rapport aux administrés, parce que s'il sait l'importance de son rôle, il va faire de l'environnement un bien public pour ses administrés. Donc, je crois que le travail d'éducation, et aussi, il y a l'autre facteur important, nos villes croissent, s'étalent anormalement, mais qui contrôle l'aménagement, l'étalement de villes? Pas des politiques d'aménagement du territoire, ça existe sur papier. Mais en réalité, rien du tout. Mais plus les gens construisent n'importe où, n'importe comment, et ils s'installent n'importe où, où est-ce qu'on peut avoir des sites de décharge et comment on va faire la gestion et le transport et le mécanisme, donc tous ces systèmes d'assainissement urbain, comment il doit être coordonné. Hein, je prendrai, là nous parlons juste des déchets qui sont les déchets ménagers, mais si on va inclure tout ce qui concerne l'assainissement inclusif, tout ce qui est debout d'épandage, mais les déchets de toilettes par exemple, ces déchets liquides éventuellement des toilettes et tout ça, nous n'avons pas même des systèmes d'épuration, des stations d'épuration dans nos villes. Donc il suffit qu'une fois c'est bouché, on va prendre, parfois c'est jeté et dans les caniveaux, ainsi de suite, avec tout ce que ça donne comme corollaire de maladies et de santé publique éventuellement.
Et donc, professeur, pourquoi les caniveaux, oui, les rivières, même les routes deviennent des dépotoirs? C'est là-bas que les gens vont jeter les immondices.
Problème d'éducation éventuellement. Problème d'éducation et problème de nos sanctions. Parce que si les gens pouvaient être sanctionnés, ça serait vu autrement. Mais si également on pouvait dire aux gens que ça c'est un bien public et c'est fait pour ça, ça serait vu autrement. Mais malheureusement, nous sommes, c'est pourquoi je parle de comment pouvons-nous faire l'assainissement de nos villes sans avoir assaini notre propre mentalité. L'assainissement doit commencer d'abord par notre propre mentalité. Nous devons dépolluer notre cerveau. Il y a un problème sérieux au niveau des gestions de biens publics. Il y a un problème sérieux au niveau de tout ce qui concerne l'environnement. L'environnement est regardé comme quelque chose qui ne nous appartient pas. Alors qu'on vit avec et qu'on fait partie.
Oui, professeur Jean-Pierre, tout à l'heure, Monsieur Alfred Toumba a proposé qu'on recoure aux jeunes, à la jeunesse, qu'on utilise les jeunes qui ont beaucoup d'énergie. Vous avez des jeunes Kuluna ou des jeunes Désévrés, on peut les mettre à contribution pour assainir nos milieux.
Tout à fait, on peut le mettre en contribution, mais je pense que si on faisait de gestion de déchets des entreprises comme ailleurs, ces gens trouveront leur compte. Mais si on amène des gens de ce côté-là comme corvée, bon, ça serait pratiquement de poudre jetée aux yeux. C'est une goutte dans l'océan. Tant mieux que ça puisse faire quelque chose. Mais il faudrait que le service, chaque commune a un service d'environnement. Chaque commune. Et ces gens sont censés faire leur travail parce que dans ces services, il y a des gens qui sont engagés, qui sont payés par l'État congolais, par l'argent du contribuable congolais, pour faire de l'environnement un lieu sain et propre. Mais ils doivent commencer d'abord par faire leur travail. Et entre-temps, on passe par cet aspect de l'éducation. Les civismes, je pense, devaient être donnés depuis l'école maternelle. Ces civismes écologiques, ces civismes environnementaux, c'est parce que c'est du savoir-vivre, c'est du savoir-être et du savoir-faire. L'écologie, c'est ça. L'environnement, c'est du savoir-vivre. Alors, si on doit, à partir de là, que le cours des civismes ne soit pas donné comme il est donné en République démocratique du Congo, où on sait que c'est un cours de quelques points, on peut échouer, on dit, bon, ça, c'est un cours des civismes, qu'il soit donné comme il est donné aux États-Unis, dans de grands pays, que lorsque quelqu'un, le civisme, c'est vraiment là où on apprend du patriotisme, lorsque quelqu'un n'arrive pas avoir de cotes qu'il lui faut, il doit reprendre l'année. Vous verrez bien que les gens vont apprendre beaucoup de choses. On minimise les choses qui sont importantes, mais qui construisent l'homme. Hein? Alors, il faudrait que l'éducation environnementale commence depuis la famille, certainement, l'école maternelle, jusqu'en dernière année des études universitaires, et ça doit continuer, évidemment, dans d'autres aspects. Alors, que cette police fasse son travail, bien sûr, au lieu d'aller extorquer les gens, d'aller se faire corrompre, mais de faire son travail pour lequel elle a été engagée par l'État congolais et les payée par le contribuable congolais. Et là, c'est l'essentiel. Le jeune qu'on peut, j'ai entendu, ça doit être Monsieur Toumba également, j'apprécie cet aspect d'entrepreneuriat parce que les jeunes sont dotés de cette capacité de pouvoir, avec des outils aujourd'hui, de réfléchir sur les techniques de gestion avec le système des start-up ils peuvent être dans une logique d'entrepreneuriat, mais il faut les appuyer. Nous sommes dans une société où on n'appuie pas la jeunesse, où on n'appuie pas l'entrepreneuriat de la jeunesse. Mais comment voulez-vous faire un développement quand vous oubliez ceux qui sont censés, qui viennent avec des idées et qui peuvent vous apporter des choses beaucoup plus agréables.
D'accord.
Donc il faut qu'il y ait du budget, du financement,
financement
pour cette jeunesse-là.
Monsieur Alfred Toumba, votre réaction par rapport à ce que le professeur a dit, hein, créer des entreprises, des jeunes dans les domaines de l'assainissement. Ça peut booster l'entrepreneuriat et puis voilà, assainir aussi la ville.
Merci beaucoup, professeur Atoudi. Donc je pense que quand vous suivez attentivement la réaction du professeur, c'est le cœur qui parle en fait. Ce n'est pas l'homme qui parle, mais c'est le cœur qui parle. Un cœur affaibli, un cœur qui est vraiment au bout en fait. Et c'est l'attitude que nous avons tous de constater que ce débat, nous les menons sur les ondes, que ce soit l'Audio Capi, que ce soit le Congo, que ce soit d'autres médias. Nous parlons de ces questions chaque jour, presque chaque semaine, mais on constate qu'il n'y a pas de changement. On a l'impression que les autorités n'attendent pas. Elles sont donc figées dans leur vision totalement politique qui n'est pas cohérente avec la réalité sur le terrain. Je suis d'accord, et d'ailleurs c'est dans la phase, deuxième phase de notre projet que nous sommes en train de travailler sur la mise en place dans les quartiers pilotes où nous sommes en train de travailler des micro-startups, donc des micro-entreprises pour le recyclage des déchets. Comme je vous ai dit, le projet Mbongwana, nous avons préféré travailler dans les quartiers, travailler avec les gens dans les quartiers. Alors, dans la deuxième phase de ce projet, nous envisageons même mettre à disposition de ces petites entreprises des motos, donc comment appeler ça, les tricycles, pour collecter les déchets dans les avenues et les amener sur un terrain qui sera choisi par les jeunes. Et nous allons demander l'autorisation à la commune pour que nous puissions établir une petite entreprise de recyclage, de tri et recyclage des déchets. Et nous sommes en train de travailler en collaboration avec certains jeunes aussi qui, eux, recyclent les déchets biodégradables, notamment en compost. Et nous voulons travailler comme ça, mettre en place des petites entreprises qui peuvent travailler dans les trois quartiers du projet Mbongwana et arriver à montrer qu'il est possible de créer de la richesse à travers les déchets qui sortent de nos maisons. J'ai travaillé avec les jeunes, je leur ai dit, imaginez tout simplement que chaque semaine, un ménage dépense au moins 2000 francs congolais pour jeter les déchets dans les poussepousseurs qui passent.
Les papas matiti, voilà.
Oui, les bananes. Et imaginez que sur une avenue, nous avons plus ou moins 200 ménages. Et nous avons dans notre quartier 10 avenues. Vous imaginez combien d'argent nous échappe comme ça chaque jour ou chaque semaine. Nous sommes autour de 6 millions, 7 millions de francs congolais. Et si nous, les jeunes, nous pouvons comprendre cet enjeu et aller vers ces gens-là, leur dire, voilà, nous les gens de notre quartier, nous allons nous charger de prendre les déchets et les amener aux endroits choisis pour le recyclage. C'est des raisons que nous pouvons gagner. Et les jeunes ont compris cela. Et c'est ce qui nous motive aujourd'hui de mettre en place cette initiative avec le financement de notre partenaire Olof Palm pour arriver à tester cette initiative et voir ce que ça va donner. Dieu faisant grâce, je pense que ça fait marcher et on peut répliquer ça ailleurs.
Bien, donc on comprend que l'insalubrité est une opportunité d'affaires.
C'est une opportunité d'affaires, une très grande opportunité d'affaires.
Professeur, pour terminer, comment encourager plus les jeunes à créer des entreprises qui vont travailler dans la gestion des déchets et l'assainissement?
Merci, je pense qu'ils sont vraiment obligés de pouvoir se focaliser sur cet aspect de notre pays, donc la gestion de déchets, l'aspect beaucoup plus oublié. Je crois que la jeunesse doit développer des idées et aussi des techniques, des méthodes qui existent bien sûr actuellement, mais les adapter par rapport à nos villes et en s'intéressant à ces domaines le plus oublié, la gestion de déchets. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait de camions, on essayait, parce que les villes n'étaient pas ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, des villes d'autant de millions. À Lubumbashi, on approche pratiquement à 10 millions maintenant, et à Kin, on est pratiquement à 15 millions et plus. Donc, ça veut dire que nous sommes dans des conditions où il faudrait aussi qu'on puisse maîtriser les statistiques et les mouvements des populations,
professeur,
éventuellement,
d'accord.
Et aussi
Professeur, merci. On n'a plus beaucoup de temps.
Merci.
Voilà, on aura l'occasion de revenir dessus prochainement. Je rappelle que vous êtes professeur Jean-Pierre Djibou, expert sur les questions de l'environnement. Nous vous disons merci et nous disons aussi merci à Monsieur Alfred Toumba, coordonnateur du projet Mbongwana. Il ne me restait plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, excellente semaine et à la prochaine.